L'édifice d'orgueil par Jack London. Percival Ford se demandait ce qu'il faisait là. Il ne dansait pas et se souciait peu du monde militaire. Pourtant, il connaissait toutes les personnes qui en faisaient partie et qu'il voyait glisser et virevolter sur le vaste lanai donnant sur la plage. Les officiers en uniforme blanc impeccable, les civils en noir et blanc, les femmes en grand décolleté. Après 2 années de garnison à Honolulu, le 12e partait pour l'Alaska et Percival Ford, en sa qualité de notable des îles, connaissait forcément les officiers et leurs épouses. Mais entre la connaissance et la sympathie s'ouvre tout un abîme. Jusqu'à un certain point, Percival redoutait les femmes appartenant au milieu militaire. Elles différaient tellement du genre qu'il préférait, vieilles filles, demoiselles à lunettes et dames austères de tout âge qu'il rencontrait à l'église, à la bibliothèque ou dans les comités pour jardin d'enfants, et qui venaient humblement le solliciter pour obtenir de lui une souscription ou un conseil. Il les dominait en vertu de son intelligence supérieure, de sa richesse et de sa haute situation parmi les barons du commerce d'Hawaï. Elle ne l'intimidait pas le moins du monde. En elle, la question sexuelle ne se montrait pas importune. Elle présentait quelque chose d'autre ou de plus élevé que la rudesse agressive de la vie. Il avait des goûts délicats et l'admettait à part soi, mais ces femmes de militaires, avec leurs épaules et leurs bras nus, leur regard direct, leur vitalité et leur féminité provocante choquaient tous ses sentiments. Il n'estimait pas davantage les militaires qui, prenant la vie à la légère, y suivaient leur chemin en buvant, en fumant, avec force jurons, et proclamaient, non moins effrontément que leurs épouses, la grossièreté fondamentale de la chair. Il se sentait mal à l'aise dans la société de tels hommes. Il semblait, du reste, que la réciproque existât. Il éprouvait continuellement l'impression que ces gens-là se gossaient de lui derrière son dos, qu'ils le considéraient avec pitié, ou bien qu'ils les rasaient. De même, ils paraissaient par leur simple présence souligner ses propres défauts, faire ressortir telles de leurs qualités qui lui manquaient, et qu'il remerciait Dieu de ne point posséder. Pouah ! À ses yeux, ces individus ne valaient guère mieux que leurs épouses. En réalité, Percival Ford n'obtenait pas plus de succès auprès des hommes qu'auprès des femmes. D'un seul coup d'œil, on en saisissait la raison. Admirablement constitué, il ignorait la maladie, voire les indispositions légères. Il manquait seulement à son organisme négatif un peu de vitalité. Un sang généreux n'aurait pu façonner ce visage allongé et étroit, ses lèvres minces, ses joues creuses, ses petits yeux perçants. Le chaume de ses cheveux, couleur de poussière, raide et clairsemé, proclamait un sol ingrat, ainsi que son nez effilé d'un modèle délicat et évoquant légèrement la forme d'un bec. La nature avare, en lui refusant la plénitude de la vie, ne lui avait permis de pousser à l'extrême qu'un unique penchant, l'intégrité. Il se torturait l'esprit avant d'agir et le fait de se conduire irréprochablement semblait aussi nécessaire à sa nature qu'au commun des mortels apparaît l'amour payé de retour. Assis sous les algarobas, entre le lanai et la plage, tantôt il laissait ses regards errer sur les danseurs, tantôt, détournant la tête, il les reposait, par-delà le flot mourant, sur la croix du sud, qui brillait très bas à l'horizon. La vue d'épaule et de bras nus l'exaspérait. S'il eût été le père d'une fille, jamais il ne lui tolérait pareille licence. Mais ce n'était là que pure hypothèse et abstraction. À aucun moment, l'association de ses pensées ne s'était accompagnée de cette vision intime, et il souriait à l'éventualité lointaine du mariage. Bien qu'âgé de 35 ans, il ne possédait aucune expérience personnelle de l'amour, et le considérait, non d'un point de vue mythique, mais comme un acte répugnant et vulgaire. Le premier menu se mariait. Les coolies japonais et chinois, trimant sur les plantations de canne et dans les rizières, se mariaient dès que l'occasion s'en présentait. Ils étaient si bas, dans l'échelle des êtres. Pour eux, impossible d'y échapper. Ils ressemblaient en cela aux hommes et aux femmes des milieux militaires. Mais pour lui, existait un autre idéal, beaucoup plus élevé. Il différait de toute cette clique et s'enorgueillissait des conditions de sa naissance. Elle ne résultait point d'une misérable rencontre amoureuse. il était né de l'association d'un devoir sublime et du dévouement envers une noble cause. Son père n'avait pas fait un mariage d'inclination. L'amour, cette folie, n'avait jamais troublé le cœur d'Isaac Ford. Lorsqu'il accepta d'aller chez les païens porter le message de vie, il n'avait consacré au mariage ni une pensée, ni le moindre désir. Ce en quoi il ressemblait à son père. Mais le conseil des missions pratiquait l'économie. Toute considération prise, il conclut qu'un missionnaire marié revenait moins cher par tête au budget de la Nouvelle-Angleterre et fournissait un bien meilleur résultat. Il ordonna donc à Isaac Ford de se marier. Bien mieux, il lui fournit une femme, une autre âme fanatique, dépourvue de toute idée matrimoniale et seulement attachée à accomplir l'œuvre du Seigneur au milieu des païens. Ces deux êtres se virent pour la première fois à Boston. Le conseil régla leur rencontre et s'occupa du reste. À la fin de la semaine, la cérémonie nuptiale dûment célébrée, ils s'embarquaient pour la longue traversée du Cap Horn.
Le fait de provenir d'une telle union remplissait d'orgueil Percival Ford. De noble naissance, il se prenait pour un aristocrate de l'esprit. Sa fierté filiale atteignait à la passion. L'orgueil d'Isaac Ford semblait s'être gravé en traits de feu sur les traits de son fils. Sur le bureau de Percival, on voyait en miniature ce soldat du Seigneur. Dans sa chambre à coucher trônait le portrait d'Isaac Ford, peint au temps où ce brave avait servi les rois comme premier ministre. Non qu'Isaac eût jamais ambitionné les honneurs et les richesses de ce monde, mais comme premier ministre et plus tard en tant que banquier, il avait rendu à la cause des missions des services beaucoup plus précieux. Les colons allemands et anglais et toute la foule des trafiquants avaient ricané en voyant Isaac Ford dans son rôle de négociant sauveur des âmes, mais son fils professait une toute autre opinion. Quand les indigènes, arrachés brusquement à leur régime féodal, ignorant tout de la propriété terrienne et de son avenir, laissèrent leur vaste territoire leur glisser des doigts, ce fut Isaac Ford qui, dressé entre les trafiquants et leurs proies, rafla d'immenses et fertiles domaines. Rien d'étonnant que son souvenir fût peu populaire chez les gens de Rapine. Cependant, il n'avait jamais considéré son immense fortune comme lui appartenant en propre. Il se regardait comme l'intermédiaire du Seigneur. De ses revenus, il avait bâti des écoles, des hôpitaux, des églises. Était-ce sa faute si le sucre après le plongeon avait rapporté 40%? Si la banque fondée par lui avait prospéré, se transformant en une compagnie de chemin de fer? Si, entre autres réussites, 50 000 arpents de pâturage à Oahu, achetés à 1 $ l'arpent, arrivaient à produire 8 tonnes de sucre à l'arpent tous les 18 mois. Non, en vérité, Isaac Ford représentait une figure de héros digne, suivant la conviction intime de son fils, de se dresser en effigie devant la façade du palais de justice, à côté de la statue de Kamehameha Ier. Il était disparu, mais lui, son fils, poursuivait sa haute mission au moins avec autant d'inflexibilité, sinon de maîtrise, que lui. Les yeux de Percival revinrent vers le lanaï. Où était la différence, se demanda-t-il, entre l'impudente Hilla, dansée par des filles vêtues de ceintures d'herbe, et les danses en décolleté des femmes de sa propre race? Différence dans l'essence même ou simple question de latitude? Comme il se posait ce problème, une main lui frappa l'épaule. « Tiens, Ford, que faites-vous donc là? Cette brillante soirée n'a pas l'air de vous amuser. »
« Je m'efforce d'être indulgent, docteur Kennedy. Même quand je me contente de regarder, » répondit gravement Percival Ford. « Vous ne vous asseyez pas ?» Le docteur commanda un scotch and soda et se retournant vers son interlocuteur. « Naturellement, je ne vous demande pas, mais si, je prendrai quelque chose, » fit énergiquement Ford. Les yeux du docteur témoignèrent de quelques surprises et le serviteur attendit. « Boy, une citronnade, je vous prie. » Le docteur éclata de rire comme à une bonne plaisanterie à son endroit et considéra les musiciens placés sous un grand arbre.
« Tiens, c'est l'orchestre à Loa, » dit-il. « Je croyais que le mardi soir, il jouait à l'hôtel hawaïen. Il en fait un vacarme. »
Son regard s'arrêta sur un guitariste qui chantait un air hawaïen, accompagné par les autres instruments. Alors son visage se rembrunit et il se tourna vers son interlocuteur.
« Voyons, Ford, n'allez-vous pas laisser en paix Joe Garland ? Je crois savoir que vous vous opposez à ce que le comité de protectorat l'envoie aux États-Unis pour ce concours de surfboard.
et j'ai pris sur moi de vous parler à ce sujet. J'aurais pensé que vous vous estimiez satisfait de le voir quitter le pays. C'eût été la meilleure manière de cesser vos persécutions contre lui. Mes persécutions. Percy Bulford leva les sourcils en signe d'interrogation. Appelez cela comme il vous plaira, poursuivit Kennedy. Il y a des années que vous acharnez après ce pauvre bougre. Quelle faute lui reprochez-vous?
Percy Bulford pinça ses lèvres minces.
Joe Garland est un osseur et un paresseux.
Ce n'est pas une raison pour le traiter ainsi. Dès le début, j'ai remarqué vos procédés envers lui.
Votre premier geste en sortant du collège, quand vous avez trouvé cet homme employé comme gardien sur votre plantation, fut de le renvoyer, vous, le millionnaire, et lui, le salarié, à $60 par mois.
Ce ne fut pas mon premier geste, protesta Percy Bulford, du ton hautain qu'il prenait dans les conseils d'administration.
Je l'ai d'abord prévenu.
Le gérant reconnaissait ses qualités de gardien, rien à dire là-dessus. Mais en dehors de son service, sa conduite était déplorable. Il détruisait mon œuvre plus vite que je ne l'édifiais. À quoi bon l'école du dimanche, les cours du soir, les classes de couture, lorsque la nuit apparaissait Joe Garland, infernal et inévitable, avec les ronrons de sa guitare et de son ukulélé, ses boissons alcooliques et ses danses de la houla.
Après l'avoir averti, je suis tombé un soir sur lui à l'improviste dans les cases. Il faisait nuit.
Attiré par la musique, je voulais voir la scène et je surpris, dans leur danse lascive au clair de lune, les jeunes filles auxquelles je m'étais efforcé d'enseigner la droiture et la bonne tenue. Trois d'entre elles venaient même de recevoir leur diplôme à l'école de la mission. Bien entendu, j'ai flanqué Joe Garland à la porte. Je sais qu'il agit pareillement à Hillow. On a jugé excessif que j'ai obtenu son renvoi de chez Mason & Fitch. Mais j'ai dû prendre cette décision à la demande des missionnaires. Par son exemple néfaste, il annulait tous leurs efforts.
Mais ensuite, quand il entra dans les tramways, dans vos tramways, appuya Kennedy, on le licencia sans aucun motif.
Non pas, réclama vivement Ford. Je l'ai fait appeler dans mon propre bureau et j'ai eu avec lui une conversation d'une demi-heure.
Et vous l'avez renvoyé pour inaptitude, pardon, pour son immoralité habituelle.
Le docteur émit un ricanement.
Mais qui diantre vous a nommé à la fois juge et jury? Depuis quand le fait d'être le patron vous concède-t-il un droit de contrôle sur les âmes immortelles de ceux qui triment pour vous? Je vous ai donné mes soins. Dois-je m'attendre à ce que demain, par exemple, vous décrétiez que j'ai à choisir entre le scotch and soda et votre clientèle?
Allons, Ford, vous prenez la vie trop au sérieux.
Autre chose, quand Joe s'est fait pincer dans cette affaire de contrebande, il n'était plus à votre service, et lorsqu'il vous a prié de payer son amende, vous l'avez laissé purger ses 6 mois de travaux forcés sur la côte. Ne l'oubliez pas, vous ne lui avez pas tendu la main, mais vous l'avez froidement abandonné à son sort. Et pourtant, rappelez-vous votre premier jour, autrefois, à l'école. C'était la rentrée, et il vous fallait passer par les épreuves habituelles. 3 plongeons dans la piscine, vous vous souvenez? C'était le tarif pour les nouveaux. Vous résistiez. Vous prétendiez ne pas savoir nager, vous aviez peur, vous approchiez la crise de nerfs.
C'est vrai, dit lentement Percy Bulford. J'avais peur, et je mentais en affirmant que je ne savais pas nager. J'avais peur.
Et qui vint à votre secours, qui mentit avec plus d'énergie que vous n'auriez pu le faire et jura que vous ne pouviez nager? Qui sauta dans la piscine, vous vous en retirez après le premier plongeon et pour sa peine faillit être noyé par les autres qui venaient de s'apercevoir de votre mensonge?
Certes, je n'ai pas oublié tout cela, répliqua Ford, mais l'acte généreux d'un collégien ne saurait servir d'excuse à toute une vie de dissipation.
Il ne vous a jamais causé aucun tort que je sache, j'entends directement et personnellement.
Non.
Et c'est ce qui rend mon rôle inattaquable. Je n'éprouve contre lui aucune haine. Il est mauvais, voilà tout. Ses mœurs sont répréhensibles.
En d'autres termes, vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce qui donne du prix à la vie, interrompit le docteur.
Si vous voulez, peu m'importe. Il ne fait rien de ses 10 doigts.
Et pour cause, puisque vous lui enlevez son travail.
Il n'a aucune moralité. Cela suffit, Ford. Ne chicanez pas sur ce point. Vous appartenez à la pure race de la Nouvelle-Angleterre. Joe Garland est à demi-canaque. Votre sang est aussi anémié que le sien est chaud. La vie n'offre pas pour chacun de vous la même signification. Lui la passe en riant, en chantant, en dansant. Joyeux, généreux, puéril, ami de tout le monde. Vous, vous avancez dans l'existence comme un moulin à prière ambulant. Vous n'êtes l'ami que des purs. c'est-à-dire de ceux qui partagent vos idées sur la vertu. Après tout, qui sait? Vous vivez en ermite. Lui coule ses jours heureux en joyeux luron, lequel est dans le vrai? Nous sommes en quelque sorte payés pour vivre. Quand le salaire devient par trop mesquin, nous abandonnons la partie, ce qui est, croyez-moi, la cause de tout suicide raisonné. Joy Garland n'aurait que faire de la récompense que la vie vous octroie. Il n'est pas bâti comme vous, tout simplement. De même, vous ne sauriez vous accommoder de ces joies qui consistent en chant, en amour. Et en débauche, permettez-moi d'ajouter. Le docteur ne put réprimer un sourire. Pour vous, le mot amour n'est qu'un vocable dont vous avez pris la signification dans le dictionnaire. Mais l'amour, dans sa véritable conception, dans sa fraîcheur, l'amour tendre et palpitant, vous l'ignorez totalement. Si Dieu nous a créés, vous et moi, s'il a créé des hommes et des femmes, c'est lui aussi qui a créé l'amour. Mais revenons à nos moutons. Il serait bientôt temps que vous cessiez de harceler ce pauvre Joe Garland. C'est indigne de vous et lâche. À votre place, je lui tendrai une main secourable. Ce geste vous honorerait. Et pourquoi moi plutôt que vous? Pourquoi ne l'aidez-vous pas vous-même? Je l'ai fait, et j'essaye encore de le faire en cet instant même. Je cherche à obtenir de vous de ne pas contrecarrer le comité de protectorat à son sujet. Personnellement, j'avais procuré à Joe Garland son emploi à îlot chez Mason & Fritsch et une douzaine d'autres, dont vous l'avez successivement fait renvoyer, peu importe. Cependant, n'oubliez pas ceci. Un peu de franchise ne vous blessera pas. Il est injuste de rendre Joe Garland responsable de la faute d'un autre, et vous devriez être le dernier à agir de la sorte. Croyez-moi, mon vieux, un homme de cœur se conduit différemment. Maintenant, je ne saisis plus, répondit Percival Ford. Vous faites état de je ne sais quel principe scientifique et nébuleux de l'hérédité et de l'irresponsabilité. Mais qu'une théorie quelconque puisse dégager Garland de la responsabilité de ses méfaits pour en même temps la rejeter sur moi, de préférence à tout autre, voire à Garland, voilà qui me dépasse. Une question délicate, sans doute, vous empêche de me suivre sur ce terrain, riposta vivement Kennedy. Envers la société, il est peut-être bon de passer systématiquement certains faits sous silence, mais vous faites encore mieux que de les ignorer tacitement. Qu'est-ce donc, s'il vous plaît, que j'ignore tacitement? Le docteur commençait à se fâcher. Une rougeur plus foncée que celle qu'il devait au whisky et soda envahit son visage et elle rétorqua. Le fils de votre père? Enfin, où voulez-vous en venir? Que diable, je ne peux guère vous parler plus clairement. Mais si vous y tenez, tant pis. Le fils d'Isaac Ford, Joe Garland, votre frère. Percival Ford, immobile, montrait une expression à la fois ennuyée et scandalisée. Kennedy le regardait avec intérêt, mais comme les minutes s'écoulaient, il se sentit mal à l'aise. « Bon Dieu, s'écria-t-il enfin, vous n'allez pas prétendre que vous n'en savez rien !» Comme en réponse, une teinte grisâtre se répandit lentement sur les joues de Ford. « C'est une sinistre plaisanterie » fit-il, « une sinistre plaisanterie !» Le docteur s'était ressaisi. « Personne n'ignore cette histoire, je vous croyais au courant. Et puisque vous n'en savez rien, il est grand temps que vous soyez renseigné, et je me félicite de l'occasion qui m'est offerte de le faire. » Joe Garland est votre frère, ou plutôt votre demi-frère. C'est un mensonge, s'écria Ford. La mère de Joe Garland se nommait Elisa Cunilio. Le docteur fit un signe affirmatif. Je me la rappelle bien, ainsi que sa mare au canard et son plan de tarot. Le père de Joey s'appelait Joseph Garland, un écumeur de mer. Le docteur secoua la tête. Il est mort, il y a 2 ou 3 ans. C'était un ivrogne. Voilà d'où Joe tient ses instincts de débauche. La voilà, votre hérédité. Et personne ne vous a rien dit, fit Kennedy avec étonnement au bout d'un instant. Docteur Kennedy, vous venez d'avancer une insinuation terrible que je ne puis laisser passer. Je vous somme de me fournir des preuves ou rien de plus facile. Rendez-vous compte par vous-même, tournez la tête et regardez-le. Il se présente de profil, voyez son nez, c'est celui d'Isaac Ford tout craché. Le vôtre en est une édition réduite, ce qui est naturel. Regardez bien. Les traits sont plus pleins, mais rien n'y manque. Percival Ford considéra le métis canac qui jouait sous le grand arbre, et lui sembla, par une sorte de révélation, contempler son propre fantôme. L'un après l'autre, les traits de l'homme trahissaient une ressemblance éclatante. Ou plutôt, Percival paraissait être lui-même le fantôme de cet être aux muscles solides et bien en chair. et ses traits, comme ceux de l'autre, rappelaient à s'y méprendre Isaac Ford. Personne ne l'avait mis en garde. Il connaissait à fond la physionomie de son père. Il passa mentalement en revue miniatures, portraits et photographies, et à chaque instant, dans les expressions du visage qu'il scrutait, il saisissait des points communs avec son père. Seule l'œuvre du démon avait pu reproduire les traits austères d'Isaac Ford en les modelant dans ce visage sensuel et passionné. Un instant, Joey se tourna vers eux. L'espace d'un éclair, Percival Ford crut voir son père, depuis longtemps mort et enterré, le regarder sous la forme de Joey Garland. À peine s'il entendait le docteur Kennedy lui dire « Tout cela n'a aucune importance. À cette époque lointaine, il se produisait pas mal de mélanges, vous ne l'ignorez pas. Vous avez été témoin de ce fait toute votre vie. Les matelots épousaient des reines et procréaient des princesses et tout ce qui s'ensuit. C'était chose courante dans les îles. » « Mais pas en ce qui concerne mon père, » coupa Percival Ford. « Nous y voilà !» s'exclama Kennedy avec un haussement d'épaule. « Le vieux Ford appartenait aux gens rigides, avec tout ce que le mot implique. Le phénomène, je le sais, ne comportait aucune explication pour votre père, encore moins que pour tout autre. Il ne l'a pas plus compris que vous-même. Nous sommes tout simplement présents d'une petite ironie de la vie. Et n'oubliez pas ceci, Ford. Chez le vieil Isaac Ford, coulaient quelques gouttes d'un sang fougueux, dont Joe a hérité entièrement. Vous, vous avez reçu en partage tout son sang d'asset. Précisément parce que vous êtes doué d'un tempérament froid, bien équilibré et discipliné, vous avez tort de considérer Joe Garland d'un mauvais œil. S'il détruit votre œuvre, souvenez-vous que de part et d'autre, le vieil Isaac Ford détruit d'une main ce que l'autre construit. Disons que vous êtes sa main droite et Joe sa gauche. » Percival Ford ne répondit rien. Le docteur acheva en silence son verre de whisky. De la route retentit l'appel impérieux d'une trompe d'automobile. « Voici la voiture, » dit le docteur en se levant. « Il faut que je me sauve. Excusez-moi de vous avoir causé cette émotion, mais il valait mieux vous parler avec franchise. » « Autre chose, Percival. Isaac Ford possédait une infime quantité de sang fougueux, et Joe Garland la lui a prise tout entière. Si la main gauche de votre père vous scandalise, n'essayez pas de la supprimer. Du reste, je ne vois rien à reprocher à Joe. À dire vrai, s'il me fallait choisir entre vous deux un compagnon pour vivre avec moi dans une île déserte, c'est lui que je prendrais. » Des enfants aux jambes nues jouaient sur le gazon à quelques pas de Percival Ford, mais il ne les remarqua point. Toute son attention se concentrait sur le chanteur. Il changea même de place pour se rapprocher de lui. Le géant du bord de mer vint à passer, traînant ses pieds alourdis par l'âge. Il habitait les îles depuis 40 ans. Ford lui fit un signe et il s'avança, ce qui lui valait cet honneur inattendu. « John, » dit Ford, « je désirais un renseignement. Asseyez-vous, je vous prie. » Le gérant s'assit gauchement, de plus en plus surpris. Il cligna des yeux et murmura. « Avec plaisir, monsieur, à votre service. John, dites-moi, qui est Joe Garland ?» Le vieillard écarquilla les yeux, tout sauta pour s'éclaircir la voix et se tut. « Voyons, » ordonna Ford, « répondez-moi. » « Vous vous moquez de moi, monsieur ?» parvint à articuler l'employé. « Non, non, je vous parle sérieusement. » L'homme se recula. « Vous n'allez pas dire que vous l'ignorez ?» demanda-t-il, faisant de sa question une réponse. « Je veux le savoir. »« Eh bien, c'est... » John s'interrompit et jeta les yeux autour de lui d'un air désemparé. « Ne pouviez-vous vous adresser à quelqu'un d'autre ? Tout le monde s'imaginait que vous étiez au courant. Nous avons toujours cru. Continuez, je vous prie. » « Nous avions toujours cru que vous lui en vouliez pour cette raison. » Des photographies et des miniatures défilaient dans la mémoire du fils et autour de lui l'espace lui semblait peuplé de fantômes de son père. Il perçut la voix du gérant. « Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. » Il le vit s'éloigner en claudiquant. « John » cria-t-il brusquement. John revint et attendit en se mouillant les lèvres. « Vous ne m'avez toujours rien dit. Ah oui, au sujet de Joe Garland. » « Oui, au sujet de Joe Garland, qui est cet homme ?»« Votre frère, monsieur. Je ne vois pas pourquoi je vous le cacherai plus longtemps. Merci, John. Bonsoir. » « Et vous ne le saviez pas ?» s'enquit le vieillard, disposé à rester une fois le moment scabre passé. « Je vous remercie, John. Bonsoir. »« Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. » Du ciel clair, criblé d'étoiles et baigné par le clair de lune, tombait une bruine si ténue qu'on eût dit plutôt de la vapeur condensée. Nul ne s'en souciait. Les enfants continuaient leur jeu, couraient nues jambes sur le gazon et s'ébattaient sur le sable. En quelques minutes, elle cessa. Au sud-est, la tête de diamant, détachant nettement sa tache sombre, profilait sur les étoiles l'apparence d'un cratère. Languissamment, le flux lançait son écume au-delà des sables jusqu'aux pelouses et au loin, on voyait les silhouettes noires des nageurs sous la lune. La basse que chantait le chœur se tut, et dans le silence, sous les arbres, s'éleva un rire de femme qui éclata comme un cri d'amour. Percival Ford, secoué d'un frisson, se rappela les paroles du docteur. En contrebas, près des pirogues tirées sur le sable, il apercevait des canaques allongés voluptueusement comme des mangeurs de lotus. Les femmes portaient l'holocus. Contre l'une de ces longues robes blanches se détachait la tête noire d'un barreur appuyé sur l'épaule de sa compagne. Plus loin, à l'endroit où la bande de sable s'élargissait, à l'ouverture du lagon, un couple marchait côte à côte. Comme il arrivait au lanaï mieux éclairé, Percival vit la femme porter la main à sa taille et dégager le bras qui l'enveloppait. Quand ils arrivèrent près de lui, Percival Ford salua de la tête un capitaine qu'il connaissait, accompagné de la fille d'un commandant. De nouveau, sous l'ombre de l'algoraba, jaillit le rire de femme qui se mua en un cri d'amour. Un gamin aux jambes nues, que sa nourrice japonaise menait au lit en le gourmandant, passa près de sa chaise. Les voix des chanteurs s'élevèrent imperceptiblement et se fondirent en un chant d'amour hawaïen. Les officiers et les femmes, bras enlacés, glissèrent et tournoyèrent sur le lanaï, et une fois de plus, on entendait le rire de la femme sous les algarobas. Sur tout cela, Percival Ford jetait l'anathème. Le rire de cette amoureuse, le barreur dont la tête reposait sur sa robe blanche, les couples se promenant sur la grève, les officiers et les femmes qui dansaient, les voix qui chantaient l'amour, son frère qui se joignait au cœur, tout le monde l'exaspérait au plus haut point. Ses pensées prenaient un tour singulier. « Fils d'Isaac Ford, qui sait si pareille mésaventure pouvait lui échoir un jour ?» À cette idée, il sentit le rouge lui monter légèrement au visage, et il éprouva un pénible sentiment de honte. Le mystère de son hérédité le terrifiait. Il lui semblait avoir appris brusquement que son père était atteint de la lèpre, et qu'il pouvait porter dans ses veines la souillure de l'horrible mal. Isaac Ford, l'austère soldat du Seigneur, quel vieil hypocrite! Quelle différence existait-il entre lui et le premier rat de Quévenu? L'édifice d'orgueil que Percival avait édifié commençait à s'écrouler autour de lui. L'heure s'avançait, l'orchestre indigène continuait à jouer, et les militaires riaient et dansaient, et Percival se débattait avec le problème accablant qu'il se posa tout à coup à lui-même. Le coude sur la table et le front dans sa main, il rassembla ses pensées, mais rien, dans son apparence, ne trahissait son trouble intérieur. Entre les danses, des officiers et des civils accompagnés de leurs femmes refluaient vers lui. Après un échange banal de paroles, il regagnait le lanaï, et Percival reprenait sa pénible méditation au point où il l'avait laissée. Il parvint en fin de compte à reconstituer l'idéal qu'il se faisait d'Isaac Ford, usant pour le cimenter d'une logique subtile et adroite, telle qu'en élaborent les égoïstes. Sans conteste, son père était constitué d'une argile supérieure à celle des gens de son milieu. Cependant que lui, Percival, en avait atteint le sommet. Pour le prouver, il réhabilitait son père, mais en même temps, il s'exaltait lui-même. Son maigre petit moi s'enflait à des proportions gigantesques. Sa noblesse d'âme lui permettait le pardon. Cette idée l'enthousiasmait. Isaac Ford avait été grand, certes, mais lui le dépassait encore, puisqu'il pouvait l'absoudre et même le rétablir dans sa mémoire à la place sacrée qu'il occupait, encore que cette image fût quelque peu ternie. En outre, il félicitait Isaac Ford d'avoir ignoré les conséquences de son écart. Eh bien, lui aussi fermerait les yeux. La danse touchait à sa fin. Après l'Aloha, les musiciens se disposèrent à partir. Percival Ford frappa dans ses mains et le serviteur japonais accourut à son appel. « Dites à cet homme que je veux lui parler, » fit-il en lui désignant Joe Garland, « qu'il vienne ici, tout de suite. » Joe Garland s'approcha et s'arrêta à distance respectueuse, balançant d'un air embarrassé la guitare qu'il tenait encore. L'autre ne l'invita pas à s'asseoir. « Vous êtes mon frère, » commença-t-il. « Eh bien, tout le monde le sait. » demanda-t-il d'un ton surpris.
Oui, est-ce qu'il paraît,
répliqua sèchement Percival Ford. Mais jusqu'à ce soir, je l'ignorais. Le demi-frère, dans le silence qui suivait, attendait avec gêne, tandis que Ford préparait froidement ses prochaines questions.
Vous rappelez-vous mes premiers jours de colère et cette fois où mes camarades m'ont jeté à l'eau ?
Demanda-t-il. Pourquoi avez-vous pris mon parti ?
Pour toute réponse, le demi-frère esquissa un sourire.
Parce que vous saviez tout ?
Oui, c'est pour cela.
Mais moi, je ne savais rien, continua Ford, du même ton sec.
Ah !
Un nouveau silence s'écoula. Les serveurs commençaient à éteindre les lumières sur le lanai.
Eh bien maintenant ? Hasarda le demi-frère.
Percival Ford fronça le sourcil, puis il mesura l'autre du regard.
« Combien accepteriez-vous pour quitter les îles et n'y jamais revenir »
demanda-t-il.
« Et n'y jamais revenir ?» balbutia Joe Garland. « C'est le seul pays que je connaisse. Ailleurs, il fait froid, paraît-il. Ici, je compte beaucoup d'amis.
Ailleurs, il ne se trouverait plus personne pour me dire aloha, Joe, mon gars. »
« J'ai dit, et ne jamais revenir, » répéta Ford. « L'Alameda part demain pour San Francisco. »
Joe Garland roulait des yeux ronds.
« Mais pourquoi ?»« Puisque vous savez maintenant que nous sommes frères. »
« C'est pour cette raison même. » »«
Comme vous venez de le dire, tout le monde le sait. »«
Je ferai en sorte que le prix compense votre sacrifice. »
Joe Garland ne montrait plus ni timidité ni gêne.
Conditions de naissance, différence de situation semblaient s'être aplanies et renversées.
« Alors vous voulez que je m'en aille ?» « Je veux que vous partiez et ne remettiez jamais les pieds ici, » fit Percival Ford. En cet instant, rapide et fugitif, il crut voir son frère se dresser comme une montagne au-dessus de sa tête et l'écraser de sa masse, tandis que lui-même diminuait et se réduisait à un atome. Mais il est malsain pour quiconque de se contempler sous les apparences de la vérité, et on ne peut sans danger se considérer longtemps dans un miroir. Le temps d'un éclair, Percival Ford entrevit son frère et lui avec leur valeur réciproque réelle. Presque aussitôt, son moi étriqué et insatiable reprit le dessus.
« Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'auriez pas à vous plaindre. Vous ne pâtirez pas, vous serez généreusement payé. »«
Bien, » dit Joe, « je partirai. »
Et il se détourna.
« Joe !» cria l'autre. « Voyez demain mon fonds d'aide pouvoir. $500 au départ et 200 par mois tant que vous resterez éloigné d'ici. »
« Vous êtes bien bon, » répondit Joe Garland d'une voix suave.
« Trop bon même.
Après tout, je n'ai que faire de votre argent, mais tranquillisez-vous.
Je m'embarquerai tout de même demain sur l'Alameda. »
Et il s'éloigna sans prendre congé. Percival Ford frappa dans ses mains.
« Boy, » dit-il au japonais, « une citronnade. »
Et il sourit longuement, satisfait de lui-même.
Ainsi s'achève l'édifice d'orgueil par Jack London.